Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, les deux heures à la fois les plus informatives et rieuses de la bande FM, grâce notamment à l'inexpugnable joie de vivre de Céline Dacosta. Joie de vivre étant, avouons-le, un euphémisme optimiste pour ne pas dire instabilité mentale. Comme sa collègue Céline Kallmann, intriguée par les étranges assouplissements qu'elle pratique hors antenne, l'a constaté hier.
Faut avoir un peu de souplesse dans le bras. Si tu fais ça trop souvent. Oh, tu vois, j'ai fait 3 fois, j'ai un peu mal au cœur.
Mais pourquoi tu le fais?
C'est rigolo.
Un jour où j'aurai le temps, j'écrirai une thèse sur Céline Dacosta. Heureusement, Debout les copains, ce n'est pas qu'une salle de gym, c'est aussi une immense bibliothèque dirigée par Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui, à l'occasion de la visite officielle dans ce pays d'Edouard Philippe, revient aujourd'hui pour nous sur l'histoire du Qatar.
Merci d'écouter Europe 1 ce jeudi 28 mars. Excellent réveil à tous, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 28 mars. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Un mouvement de grève aujourd'hui dans les structures d'accueil des tout-petits. Les professionnels de crèche s'inquiètent de la réforme voulue par le gouvernement. Les moins qualifiés pourraient occuper des postes sans avoir le diplôme requis. Régime sec chez Carrefour qui souhaite supprimer plus de 1200 postes dans les hypermarchés français. Comment financer la prise en charge des personnes âgées? Il faut savoir que 9 Français sur 10 souhaitent repousser au maximum l'entrée en maison de retraite.
Europe 1.
Casse-tête aujourd'hui pour les parents dont les enfants sont en crèche. Il a fallu trouver une solution car les structures d'accueil des tout-petits sont touchées par une grève nationale à l'appel du collectif Pas de bébé à la consigne. Les professionnels du secteur s'inquiètent des ordonnances qui sont en train d'être rédigées par le gouvernement. 3 points sont inacceptables selon eux car non seulement ils dévalorisent leur métier mais surtout ils mettent en danger les enfants. Yves Roger.
Aujourd'hui dans une crèche, il y a des personnes très qualifiées comme les puéricultrices ou les auxiliaires de puériculture. Et elles encadrent des personnes moins diplômées qui n'ont par exemple qu'un CAP petite enfance. Demain, le gouvernement voudrait assouplir ce système. Certains pourraient occuper des postes sans en avoir le diplôme, simplement sur la base de ce qu'ils ont appris à faire au fil des années. Et ça, les grévistes n'en veulent pas. Deuxième point d'achoppement, le nombre d'encadrants par enfant. Aujourd'hui, il faut un adulte pour 5 petits bébés et un pour 8 enfants plus grands. Trop complexe, estiment les gestionnaires de crèche. Le gouvernement avance donc l'hypothèse d'un adulte pour 6 à 7 enfants, quel que soit leur âge, inacceptable pour Julie Marty-Pichon du collectif Pas de bébé à la consigne.
Je vous prends juste le temps du repas, par exemple, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec 2 adultes pour 12 enfants qui ont besoin de manger entre 11h et 13h, vous faites comment, quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un bébé, bon, écoute, il faut que tu attendes 1 heure, là, parce que là, je suis occupée avec 2 autres et je ne peux pas te donner à manger, quoi.
Enfin, dernier point de désaccord, le nombre de mètres carrés par bébé, il pourrait passer de 7 à 5,5, mais seulement de manière exceptionnelle, précise le gouvernement. Dans le centre des grandes villes, par exemple, là où le mètre carré est rare et cher.
Yves Roger pour Europe 1. Un remaniement attendu dans les prochains jours, après le départ de 3 ministres, Nathalie Loiseau pour les Européennes, Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux qui se lancent tous deux dans la campagne pour la municipalité de Paris. On devrait connaître leur remplaçant d'ici lundi, date du prochain Conseil des ministres. Emmanuel Macron se déplace en Anjou. Cet après-midi, il échangera à Beaupréau en Mauges avec une 50aine d'enfants qui font partie des conseils municipaux du département. Theresa May promet de démissionner quand son accord sur le Brexit sera adopté. Hier, les députés ont voté contre les 8 scénarios alternatifs.
Carrefour veut supprimer plus de 1200 postes dans ses hypermarchés cette année en France.
Des départs qui concerneraient les secteurs hors alimentaire, la bijouterie, le rayon multimédia, l'encadrement ou encore les caisses des stations-service. Des départs qui ne seraient pas contraints mais qui rentreraient dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Ça veut dire que l'accord doit être signé par des syndicats représentant au moins 50% du personnel. Michel Engels, délégué FO, exige des contreparties.
Beaucoup d'inquiétudes parce que les salariés savent maintenant des types de postes qui vont être supprimés. Sur l'encaissement, sur les stations essence, les postes dans les rayons bijouterie, électroménager, ciné, son, et je dirais tous les rayons non alimentaires ou des magasins. Aujourd'hui, la rupture conventionnelle collective, elle n'est pas pratiquée ou peu puisqu'elle est récente dans la loi. Mais comme les systèmes de plans de départ volontaire, il faut qu'il y ait en face des contreparties dans la négociation. Et c'est ces contreparties qui vont permettre ou pas la signature de cet accord de rupture conventionnelle collective.
Propos recueillis par Hélène Terzian. Les manifestants manifestation une nouvelle fois interdite samedi sur les Champs-Élysées, 20e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Hier, 4 personnes ont été condamnées à Caen à des peines allant de 6 mois à 2 ans ferme, notamment pour des violences volontaires sur des gendarmes.
C'est un rapport sur la dépendance particulièrement attendu qui est remis aujourd'hui au gouvernement.
Oui, une question d'autant plus sensible que les plus de 85 ans seront d'ici 2050 3 fois plus nombreux. Se pose la question donc de la dépendance. La majorité des Français souhaitent ne pas être placés en maison de retraite, en tout cas le plus tard possible. À Paris, des bailleurs sociaux et une association ont lancé il y a quelques mois des colocations entre étudiants et personnes âgées. Leur portage de mode des camps.
Dans son fauteuil au motif fleuri, Conception, 89 ans, a retrouvé le sourire. Il y a 3 mois, une terrible sciatique l'a presque paralysée. Impossible de continuer à vivre seule, mais impensable pour elle de quitter son appartement.
Je suis là depuis 1964. J'allais, je venais, et puis maintenant je ne peux plus. Et le seul moyen qu'il y avait, c'était d'avoir un étudiant à la maison.
Cet étudiant, c'est Guillaume, 26 ans. Depuis le mois de janvier, il partage son quotidien.
On a des rituels, on mange à telle heure parce qu'il y a tel feuilleton qui passe. Donc tout est réglé et ça ne dépasse pas en fait. J'y vois que des avantages.
En échange de 150 euros par mois, Guillaume est hébergé. Il n'a aucune obligation de service envers Conception, mais il l'aide volontiers.
J'ai besoin de lui et je l'appelle. Là par exemple, pour ouvrir une boîte. Mais je me demande comment je ferai.
Et ce que le jeune homme apprécie par-dessus tout, ce sont ses temps d'échange avec celle qu'il considère un peu comme sa grand-mère.
Je pose des questions sur sa famille.
On passe de politique, tout ça.
Moi, je ne suis pas trop l'actualité, mais elle est là pour me rappeler ce qui se passe en France.
Des étudiants comme Guillaume, il y en a des dizaines en attente, car le plus dur, c'est de convaincre les seniors de leur ouvrir leurs portes.
Maud Descamps pour Europe 1. Le conseil municipal de Grande-Synthe dans le Nord a alloué hier soir à l'unanimité 1,2 million d'euros à la mise en place d'un minimum social garanti, une somme destinée aux habitants en grande précarité. Ça concerne 3 700 personnes selon la mairie.
C'est l'une des grandes stars mondiales du piano classique. Le chinois Lang Lang sort un nouvel album.
Oui, il y interprète des œuvres qu'il a travaillées lorsqu'il était jeune et celles qui lui ont donné envie de faire du piano comme moi, Mozart, Bach, Beethoven. On y trouve aussi du Jan Viersen. Thierry Geffrotin l'a rencontré pour Europe 1.
Je voudrais que les gens découvrent mes morceaux préférés, ceux que j'ai joués au début de ma carrière. J'ai aussi choisi des pièces de virtuosité que mes voisins n'aimaient pas, comme l'étude de Czerny. Je les comprends d'ailleurs. Mais maintenant, je la joue comme une composition artistique plutôt que comme un exercice. Nous avons des pièces de compositeurs français, 3 de Debussy et aussi une composition d'Yann Tiersen tirée du film d'Amélie Poulain qui est l'un de mes préférés. C'est vraiment un très beau morceau.
Amélie Poulain.
Enfin là, c'est Lang Lang qui joue.
Évidemment. Ah ben, c'est pas, c'est sûr que ce n'est pas Amélie Poulain qui joue. Ça, c'est sûr que c'est plutôt Lang Lang. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et chers auditeurs, jouons franc jeu ce matin. Pour une fois, vous êtes nombreux à vous demander s'il y a vraiment quelque chose entre Céline Kallmann et moi. Ben. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais je suis en mesure de rassurer son mari. Non, évidemment, tout ça est pure fiction. C'est simplement pour vous divertir un peu. Si vous pouviez nous entendre durant la coupure pub, vous constateriez qu'il n'y a entre nous pas la moindre ambiguïté.
J'aimerais bien un petit bout de chocolat. Un petit bout de chocolat aux noisettes. Quelque chose de coquin comme ça. T'aimes pas le chocolat ? C'est très érotique le chocolat.
Je n'aime que le chocolat suisse.
Oui, bon, comme me le disait hier soir Céline en me montrant du doigt le radiateur, enchaînons.
Europe 1. 5h-7h,
Mathieu Noël, oui quand même.
À suivre, c'est historique. C'est historique, Céline. Ah le fact-checking par l'histoire, reprenons-nous. Et aujourd'hui, alors qu'Edouard Philippe se rend à Doha en visite officielle, Fabrice Dalméda revient sur l'histoire d'un pays dont on parle beaucoup, mais qu'on connaît finalement assez peu, le Qatar. Hein ? Fascinant Qatar.
Bon réveil, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Céline, une question se pose à 6h09. Oui, quel temps fait-il ? Soleil, bien présent, sur la moitié sud en tout cas.
Oui, oui, ce matin, c'est même jusqu'à la région centre. Et puis en montant sur le Grand Est, qui sera bien présent, là il fera très beau. En revanche, les nuages seront déjà bien présents, avec quelques brumes entre la Bretagne, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, en passant par Normandie.
Ah, la Normandie.
Que je n'ai pas cité. Cet après-midi, toutes les régions nord de la Loire ont droit à ces nuages qui cacheront par moments le soleil, un petit peu comme hier. Pour les autres, il brillera
largement. Les températures semblables aussi à celles d'hier. On se couvre bien ce matin. Et puis attention au vent de nord, toujours un petit peu frais pour cet après-midi.
Merci beaucoup Céline Evaroc.
C'est l'anniversaire de Lady Gaga aujourd'hui. Elle a 33 ans. Question totalement idiote, mais qui nous a amusés. Qu'est-ce qui vous rend Gaga? Vous nous répondez depuis ce matin, 5h, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Jérémy nous dit déguster une excellente pâtisserie, fraisier ou des profiteroles, évidemment.
Profiteroles, ça c'est un vrai débat. Ah, oui. Ça sera la question de demain.
D'accord, ok. Sabrina nous dit les bébés, mes enfants, quand ils dorment surtout, les chatons, les dauphins et n'importe quel gâteau au chocolat. Et puis Géraldine nous dit cocooning, un week-end de pluie devant une série scandinave avec du thé, des petits gâteaux. C'est trop bien, c'est trop rare. Donc je suis gaga de ces moments et on la comprend. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag.
Moi je suis gaga de vous, Eva.
Oh merci,
c'est beau,
moi aussi.
Merci chers auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ambiance tendue ce matin dans le studio au moment où Jérôme Lacroix a fait son entrée. Il faut dire qu'entre Jérôme et Céline, rien ne va plus. Jérôme a même décidé qu'il ne lui adresserait plus la parole.
Tout ça à cause d'un petit dérapage avec son cousin, c'est bon.
Oh, vous chipotez vraiment pour rien, Gégé. Décoincez-vous, mon vieux. Allez, faites-nous le journal des sports, ça va vous détendre. À la une du JDS, les Lyonnaises, comme Céline Dacosta, insatiables.
Les footballeuses sont en demi-finale de la Ligue des Champions à la faveur hier soir d'un succès costaud à 4-2 chez les redoutables allemandes de Wolfsburg en quart de finale retour. Et vous l'entendez, c'était la fête partout. Ça, c'est dans le vestiaire, mais aussi juste après ça, dans le bus. Les Lyonnaises, 5 grandes Coupes d'Europe
mais
au palmarès. Dans les 3 dernières, c'est la magie des réseaux sociaux. Elles visent la 6e Ligue des Champions, mais pour connaître la finale, elles devront se défaire le mois prochain des londoniennes de Chelsea.
Ces Anglaises qui ont mis fin, elles, aux ambitions parisiennes.
Et oui, comme les garçons, les filles du PSG sont éliminées de la compétition. Alors elles ont pourtant gagné 2-1 hier soir, mais elles ont encaissé le but anglais fatal à la toute dernière seconde parce qu'elles avaient perdu 2-0 à l'aller. Une satisfaction tout de même hier soir, c'est ça. Plus de 13 000 supporters au stade Jean Bouin. Écoutez la défenseure Eve Périssé.
C'est top, voilà, on veut les remercier parce qu'ils sont toujours derrière nous. Ils ont chanté de la première minute jusqu'à la 94e. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un public comme ça et on les remercie parce qu'on est très contente qu'ils soient là à chaque match.
Des propos recueillis par Julien Froment. Le foot ce matin, c'est aussi ce chiffre. 80 millions, la somme déboursée par le Bayern Munich pour les services de Lucas Hernandez, le défenseur français champion du monde acheté à l'Atlético de Madrid. Il devient le joueur le plus cher de l'histoire de l'Allemagne du foot et le deuxième défenseur le plus coûteux du monde. L'Europe du basket avec la victoire des joueurs de Nantes. Hier soir, 83-75 face à Bologne. C'était un quart de finale aller de Ligue des Champions. Et en basket, c'est le troisième échelon continental. Match retour en Italie mercredi prochain.
Et ce matin, Jérôme, j'ai envie de vous dire, hop Suisse, Roger Federer est décidément inoxydable.
37 ans et tout son talent qui lui permet d'être en quart de finale du Masters 1000 de Miami. Une petite heure aura suffi au champion suisse pour écarter le 15e mondial. Le russe Medvedev, de 14 ans, son cadet à l'opposition à Federer. On trouve le jeune Canadien Félix Auger-Aliassime, 18 ans, qualifié cette nuit pour le dernier carré, jeune demi-finaliste de l'histoire du
tournoi. Il est fabuleux ce jeune joueur, 18 ans, et vu son nom, je croyais qu'il était français. L'espace d'un instant, j'ai cru, il est québécois.
Il est canadien, mais tant pis pour nous. Je pense qu'on va beaucoup l'entendre son nom dans l'avenir. Et puis le PSG handball, toujours aussi costaud, 18e victoire en 19 matchs de D1 hier soir, 44-29 face à Istres à 7 journées de la fin. Les Parisiens sont premiers du classement, plus 5 points sur les Dauphins nantais. Ils filent vers un 5e titre consécutif de champion de France.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Celle d'un tabou, un sélectionneur étranger à la tête du 15 de France de rugby. Ouh, c'est jamais arrivé. Le président de la fédération, Bernard Laporte, ne ferme pas la porte pour redresser l'équipe. Il l'a dit hier dans le quotidien Le Progrès. Le remplacement...
C'était pas votre meilleure, celle-ci.
C'est laquelle?
La porte ne la ferme pas.
Ah oui, non, j'ai même pas fait exprès.
Oh, une involontaire. Ah, ça, c'est la marque des plus grands humoristes.
Non, j'aurais pas répété deux fois porte. Bah, c'est pas grave. Le remplacement de Jacques Brunel pourrait même finalement intervenir avant le mondial de septembre prochain. Écoutez, l'entraîneur de Toulouse, Hugo Mola, lui, pas de sélectionneur étranger, il voit deux hommes à la tête des Bleus. Le duo Laurent Travers, Laurent Labitte, qui officie au Racing 92.
C'est sûrement les deux meilleurs dans des contextes différents depuis des années. Ils ont su s'adapter à leur salle, à leurs contraintes, en passant de Castres, qui était quand même pas le même rugby, à un Racing qui était plutôt sur un jeu très fermé à Colombes, où tu voyais pas un ballon de l'après-midi, et aujourd'hui sur un jeu hyper ambitieux. Mais vous les avez là, les gens, hein, qui doivent reprendre le rugby français.
Et Toulouse et le Racing 92 qui s'affrontent dimanche pour une place en demi-finale de Coupe d'Europe.
Merci, c'était le journal de Jérôme Lacroix. Et nous entrons à présent dans une chronique histoire, une phase de l'émission où normalement Céline Dacosta, beaucoup moquée depuis hier pour ses digressions sur le Périnée, va pouvoir souffler. Là, vous êtes tranquille, Céline, un respectable agrégé d'histoire comme Fabrice Dalméda est forcément au-dessus de ses trivialités.
Je t'ai entendu dire tout à l'heure un mot...
Quoi ? Périnée ?
Une histoire de doigts
C'était un signe.
J'étais très gêné. Tu veux quand même un whisky?
Raté.
Oh, dis donc.
On passe quand même à la rubrique histoire de notre matinale.
Bah alors.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Fabrice vient de prononcer le mot fourbe. Ça vous va tellement bien, en fait.
C'est vrai que ça me résume bien. Ouais. Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Le Premier ministre Édouard Philippe est arrivé hier soir au Qatar pour une visite d'un peu plus de 24 heures. Il est accompagné de plusieurs grands patrons français. L'occasion pour nous de revenir sur la naissance de l'État du Qatar. C'est assez récent, Fabrice.
Ben oui, parce que son véritable acte de naissance se situe en 1867. C'est un État qui est né par une défaite. La ville de Doha et ses environs sont attaqués par le Bahreïn, dont ils étaient une province. Furieux de cette guerre, qui traduit un de leurs traités, les Britanniques confient donc à un riche marchand de Doha, Mohamed Bin Thani, la direction de la province. Il doit éliminer la piraterie. Mohamed Bin Thani, tout en étant épaulé par les Britanniques, ménage l'autre puissance locale, l'Empire ottoman. Son successeur direct, Jassim bin Mohamed Al Thani, toujours la même famille, se révolte contre les Ottomans et obtient à la veille de la Grande Guerre un traité de protection des Britanniques qui y installe des troupes. Il est donc dégagé de la pression des Ottomans et du Bahreïn.
Et c'est le pétrole qui va tout changer.
Bah oui, les premières prospections commencent dès 1922, l'exploitation s'amorce à partir de 1949 et surtout... En 1964, le pays obtient les premières retombées. Or, la Grande-Bretagne connaît une crise économique dans les années 60. Elle veut donc réduire ses coûts militaires. Elle retire ses forces du Golfe. Et ainsi, en 1971, les anciens traités sont annulés. Le Qatar est totalement indépendant. Avec son économie florissante, la famille Al Thani peut garantir son indépendance face aux Émirats et aux autres voisins.
Et pourquoi le Qatar s'est-il rapproché de la France ?
Depuis 1996, le Qatar exploite avec l'Iran un gisement gazier, le plus grand gisement gazier au monde. Cela crée des tensions avec l'Arabie Saoudite et ses autres voisins. Il cherche donc, le Qatar, à se rapprocher d'autres puissances. Et c'est ainsi que la France intervient. D'abord parce qu'elle va faire des ventes d'armes qui vont lui donner une puissance militaire. Ensuite, parce que son fonds souverain va investir en France, notamment depuis l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est pas seulement le PSG, il y a des investissements dans le secteur hôtelier, dans le secteur industriel. Et ainsi, la visite d'Édouard Philippe joue un rôle très important dans les perspectives économiques et géopolitiques.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Comment une simple rumeur basée sur rien peut-elle prendre une ampleur telle que des gens en viennent à en agresser d'autres ? C'est le scénario terrifiant qu'a vécu la communauté rome de Bobigny. À 6h20, nous serons avec Pascal Froissart, un enseignant-chercheur spécialiste de la rumeur. Nous verrons que ça peut aller vraiment très vite, même des gens sensibilisés peuvent tomber dans le panneau. Vous savez, par exemple, Eva, qu'en parallèle de ma carrière radio, j'ai toujours continué ma carrière de footballeur. Et là, j'ai eu un coup de fil de Zidane, il m'a dit « Viens, j'ai besoin de toi au Real ».
C'est vrai ? Ah, c'est top !
Voilà, il y a encore du boulot.
Il est 6h17. Il est 6h19. L'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
3 ministres ont quitté le gouvernement hier soir. Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. Ces 2 derniers briguent l'investiture du parti pour les municipales de 2020 à Paris. Theresa May démissionnera avant la prochaine étape de négociation sur le Brexit si le Parlement vote son accord de retrait négocié avec l'Union européenne. Hier soir, situation ubuesque. Les députés ont voté contre toutes les alternatives qu'ils avaient eux-mêmes proposées. Enfin, la manifestation envisagée sur les Champs-Élysées samedi dans le cadre de la 20e journée de mobilisation des Gilets jaunes va être interdite, a prévenu le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce jeudi 28 mars et l'actualité, c'est aussi la garde à vue d'une dizaine de personnes après des violences commises contre des Roms en Seine-Saint-Denis lundi. Ces violences faisaient suite à des rumeurs infondées sur des enlèvements d'enfants. Bonjour Pascal Froissart.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en communication à Paris 8. Ces rumeurs d'enlèvements d'enfants s'amplifiaient depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, indiquant que des camionnettes suspectes circulaient en région parisienne, il n'en était rien. On va essayer de décrypter avec vous ce phénomène de la rumeur, phénomène qui a certes toujours existé mais qui trouve avec les réseaux sociaux une caisse de résonance particulière
particulièrement vicieuse. Déjà, Pascal Frassard, est-ce que vous faites une différence entre une rumeur et une fake news, un fox en français ?
Oui, pas trop en fait, mais parce que tout simplement, le mot fake news, le mot un fox sont des mots très très récents. Fake news, c'est 2016, un fox, c'est cette année, ou voire peut-être l'année dernière. C'est très récent, mais ça recouvre probablement les mêmes réalités. C'est-à-dire des messages qui circulent de manière tout à fait massive, tout à fait incontrôlable, et qui sont, on ne sait jamais trop s'ils sont vrais ou faux, mais qui sont la plupart du temps faux.
Alors on comprend aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, comment ça se propage, mais quel est le point de départ de ce type de rumeur ? Comment naît une rumeur ?
Il y a évidemment plusieurs manières d'imaginer la réponse. Ça peut être une mauvaise blague qui tourne encore plus mal qu'elle avait commencé. Ça peut être aussi des hypothèses, des suspicions, des interrogations qu'on se pose. Là, sur les enlèvements d'enfants, c'est une peur profonde qu'on a voir ces enfants.
Oui, forcément, on se sent tous concernés, donc forcément, ça nous interpelle.
On ne peut pas imaginer que quelqu'un a volontairement voulu lancer ce genre d'informations-là. En revanche, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans notre civilisation, cette peur de l'enlèvement d'enfants, qu'il suffit qu'il y ait un peu d'inquiétude, un peu d'une incompréhension quelque part pour que ce genre d'informations circule. Donc il y a une part de hasard, il y a une part aussi de mauvaise volonté, de crise, c'est un mélange, hein. C'est très très compliqué, et la plupart des scientifiques qui se sont heurtés au problème de la source se sont vraiment heurtés, on n'y arrive pas la plupart du temps.
Là on tente de faire avec vous un décryptage ce matin, mais est-ce que le fait d'en parler, ça n'alimente pas le fantasme ? Est-ce que de manière perverse, on ne peut pas imaginer qu'entendre des journalistes démonter les mécanismes d'une rumeur est en effet quelque part contre-productif, certains se disant « Ah, tu vois, s'ils ressentent le besoin d'expliquer, c'est qu'ils cherchent à étouffer l'affaire », comme s'il y avait une affaire qu'il faudrait cacher.
Oui, vous avez raison. Le problème de la rumeur, c'est que c'est un élément de langage, c'est un morceau de notre narration quotidienne. On en parle le matin, on en parle dans les cours de récréation, on en parle dans les couloirs de bureau. Et du coup, on a l'impression qu'avec les mots, on va pouvoir, lutter contre des mots. C'est plus compliqué que ça. Là, il y a aussi des actes derrière. Hein. Ce dont on parle, c'est pas juste une rumeur.
Non, là, il y a eu un basculement dans la violence.
Rigolote qui circule. C'est aussi une actualité sur le terrain qui est compliquée, parce que du coup les mots deviennent, enfin la rumeur devient instrumentalisée, elle sert à passer à l'acte, elle sert à des gens qui sont déjà probablement passablement énervés pour
ça leur donne un mobile,
et donc c'est ce qu'il ne faut pas non plus mépriser dans cette histoire-là, c'est que en ce moment en France, il y a des gens qui n'attendent que ça, pour passer, pour caillasser, pour taper, faire des dégâts. Et donc là, c'est un très très bon prétexte.
Mais la rumeur, ça date pas d'hier, ça a toujours existé dans l'histoire. Quelle rumeur vous a particulièrement marqué au cours de vos recherches ? Est-ce qu'il y a une qui est plus symptomatique que d'autres, plus représentative ?
Mais non, pas tant que ça. Alors ça c'est une question que je me pose à moi-même souvent. Pas tant que ça, parce qu'en fait, les rumeurs sont très proches de l'information, des informations, et que finalement, il y a des rumeurs qui sont plus ou moins drôles, plus ou moins tragiques, que le passage à l'acte, par exemple, est quelque chose de très étonnant. C'est qu'il y a aussi des rumeurs qui deviennent vraies parce qu'on en parle. Et du coup, il y a des gens qui vont s'inspirer de ce qui se raconte pour passer à l'acte. Mais il y a aussi des rumeurs qui sont très drôles. Plutôt non, ce qui me fascine dans la rumeur, c'est la proximité avec d'autres genres. Par exemple, sur un plan scientifique, il est très difficile de montrer les différences entre une recette de cuisine et une rumeur.
C'est-à-dire ?
Pourquoi ? Parce que ça fonctionne de la même manière. De bouche à oreille. Quand je vous donne la bonne recette de ma pizza italienne, attention, ma pizza italienne, je vais vous affirmer que c'est la pizza italienne, que toutes les autres sont mauvaises. Et vous allez la faire parce que ce sera moi qui vous l'ai dit. Pas parce que vous l'avez trouvé dans un bouquin. C'est parce que... Et donc on voit qu'il y a des proximités comme ça très étonnantes. Alors là, évidemment, je suis dans le domaine je badine. Oui. Hein, c'est plutôt drôle. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est moins drôle.
Mais
c'est un peu les mêmes éléments.
Ouais. Eva Rock ?
Est-ce qu'une rumeur peut prendre fin ? Est-ce que c'est possible ?
Alors, elles s'éteignent. Elles prennent fin, je ne sais pas, mais elles s'éteignent. Alors, et le problème avec Internet, c'est que quand on s'éteint sur Internet, le problème, on laisse des traces.
Oui, et des résurgences après.
Il est possible. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur cette rumeur de camionnette blanche, un des problèmes, c'est que c'est marqué partout. C'est que ça a déjà eu lieu dans les années 2010, même peut-être dans les années 2000. On en a quelques occurrences dans les années 2000. Il suffit peut-être d'un message qui ressort d'Internet pour être mal interprétée ou pour être réinterprétée, tout simplement. Et donc, ça repart. Les supports numériques ont ça de bien et de pas bien. C'est ouais. que ça permet de contrôler très bien si ça existe ou pas déjà, mais ça permet aussi de redonner vie à des choses qui auraient pu s'éteindre, tout simplement.
Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Vous dites que les SMS, c'est aussi dangereux qu'Internet. Enfin, dans la propagation
oui,
des
supports numériques en général. Hein, là, dans ce qui nous occupe aujourd'hui, là, ces rumeurs d'enlèvement d'enfants, il y a toute une part de ces rumeurs-là qui circulent par les réseaux sociaux classiques, les plateformes officielles, c'est aussi par Telegram, par Instagram, par Snapchat, par WhatsApp, par les SMS. Et c'est compliqué parce que ce sont des réseaux très très communautaires. Quand vous faites partie d'une boucle SMS, c'est 15-20 personnes. Et comment est-ce que vous faites pour contrôler ce genre d'informations ?
Dernière, ultime question. Est-ce qu'il faut sanctionner les réseaux sociaux qui propagent les rumeurs comme l'a proposé le chef de file des députés En Marche, Gilles Legendre ?
Alors, les réseaux sociaux, je ne sais pas comment le faire.
Oui.
Il y a des lois pour le faire. La diffusion de fausses nouvelles, c'est une loi qui existe déjà, ouais. C'est condamnable. De toute manière, puisque c'est numérique, il y a des traces. S'il y a des plaintes, les gens vont être retracés très très facilement. C'est quelque chose qu'il ne faut donc évidemment pas faire. Il ne faut pas conseiller à vos auditeurs de faire suivre ce genre de messages-là. Ils sont importants, mais ils sont dangereux. La sanction, elle est évidente si c'est un délit. Maintenant, comment faire
On ne peut pas mettre un flic derrière chaque internaute. Effectivement.
Pour savoir comment ça sera.
Merci beaucoup Pascal Froissart. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en communication à l'Université Paris 8 et auteur d'un livre, La Rumeur, Histoire et Fantasme. Merci d'avoir été avec nous ce matin, micro d'Europe 1.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 du Sérénissime. David Doucan, la météo avec des nuages au nord et du soleil au sud.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Et Céline Dacosta, on fait un point avec vous sur la météo de ce 28 mars. Encore des nuages sur la moitié nord.
Mais ils sont toujours bien présents aujourd'hui.
On a beau souffler, ne partent pas.
Ne partent pas sur la moitié nord, ils vont rester.
Ah non, c'est moi qui dois souffler.
C'est
maman.
Vous, normalement. David Doucan, qui est en train de se me dit, c'est pas drôle ça.
Et pourtant,
c'est un running gag. En fait, c'est Eva qui souffle dans son micro pour faire les nuages.
C'est un conte pour enfants, le souffleur de nuages.
Mais ça, tout ce qui est enfant, magie, ça, vous pouvez pas compter sur David Doucan.
Excusez-moi. Je voulais juste rajouter que du vent, pourtant, il y en avait, mais ça ne suffit pas. Effectivement, vent de nord bien frais qu'on va sentir cet après-midi. Les nuages sont bien présents ce matin, c'est n'importe quoi. De la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France en passant par la région parisienne, au nord de la Loire pour cet après-midi. Partout ailleurs, ce sera du ciel bleu et du soleil. J'enchaîne avec les températures qui ce matin sont bien fraîches. Et cet après-midi, ce sera semblable à hier, 13 à 16 degrés sur la moitié nord, 16 à 20 pour la moitié sud. Demain et après-demain, je pense qu'on a encore un petit peu le temps. Les journées seront agréables. Attention dimanche, changement de temps, ciel couvert et pluie reviennent par la moitié nord avec une baisse des températures, une baisse qui va s'accentuer à partir de mercredi, gagner la moitié sud. Et puis on n'oublie pas le changement d'heure, on passe à l'heure d'été, on rajoute une heure, à 2h il sera 3h dans la nuit de samedi à dimanche. Alors on résume dimanche, on a froid et on dort moins.
On résume, David, quelle température à Arras cet après-midi?
Je viens de le dire, bravo.
Merci Céline.
Je sais rien.
Europe 1,
5h, 7h. Debout les copains, c'est l'émission que vous écoutez, 2 heures hybrides à l'interface dangereuse de l'info et de l'humour, 2 heures que même David Doucan qui y participe trouve étonnante.
Oui, étonnante et même peut-être effrayante.
Bon, ça va, Doucan, n'exagérons rien. C'est vrai que parfois il nous arrive de nous égarer sur les sentiers glissants du divertissement, mais ça reste une tranche info journalistique. Si jamais l'actu est marquée par une réunion entre Emmanuel Macron et la Confédération des chasseurs, on va pas se mettre à chanter Chantal Goya, on a quand même des cartes de presse.
A tué un chasseur, c'était un lapin. Qui ? C'était un lapin. Qui ?
Bon, à la différence de nous, eux vont peut-être conserver leur carte de presse. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent avec notamment programme derrière le remaniement, le scrutin des municipales. L'enjeu est énorme pour Emmanuel Macron.
Et vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Vous entendez ces barrissements? C'est David Doucan qui s'échauffe la voix pour le journal de 6h30. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Est-ce une comédie britannique? Non, c'est la réalité politique. Les députés ont dit non à toutes les questions qu'ils s'étaient posées à eux-mêmes. Theresa May promet de démissionner s'ils adoptent enfin son accord de Brexit. Nous serons à Londres dès le début de ce journal. C'est un sujet majeur des prochaines décennies, la dépendance. Un rapport très attendu est remis aujourd'hui au gouvernement. Quelle solution face à ce défi? La réponse dans un instant. Les ingénieurs d'Airbus ont mis leur savoir-faire au service de la bonne cause. Ils ont construit une prothèse high-tech pour une petite fille née sans l'avant-bras gauche. Belle histoire et excellence française à la fin de cette édition.
Europe 1.
Le feuilleton du Brexit tourne à la mauvaise blague. Hier, les députés s'étaient posé 8 questions pour trouver une porte de sortie. Ils ont dit non à tout. Ni nouveau référendum, ni maintien dans le marché unique, ni Brexit dur. Aucune solution n'a trouvé de majorité. De son côté, Theresa May abat sa dernière carte. Elle promet de démissionner si le Parlement adopte son accord de divorce. Vous savez, celui qui s'est déjà fracassé 2 fois devant les députés. Et même ce sacrifice semble inapte à faire bouger les lignes. Reportage de notre envoyé spécial à Londres, Jean-Sébastien Soldaini.
Les militants massés aux abords du Parlement ont accueilli l'annonce de Theresa May dans une quasi-indifférence. Bon débarras, semble même dire Michael, partisan d'un Brexit dur.
Elle va partir d'une façon ou d'une autre, elle va partir. Si elle perd son vote, elle s'en ira. Elle est ridicule qu'elle parte. Elle est pathétique. Elle n'aurait jamais dû être Premier ministre. La politique de notre pays est complètement détruite. Elle a tout foutu par terre.
Avec son bonnet aux couleurs du drapeau européen, Jenny non plus ne regretterait pas le départ de Theresa May, mais elle redoute que cela crée encore plus de problèmes.
Ils n'ont toujours pas réglé le Brexit. C'est ça le plus important, pas la succession de Theresa May. Nos politiques doivent agir en adultes. Ma crainte, c'est qu'on passe les prochains jours à savoir qui va prendre sa place au lieu de nous sortir de ce problème. De quoi on a l'air ?
Theresa May a beau mettre sa démission dans la balance, à ce stade, ça ne permet pas de bouleverser les équilibres. Londres, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Deuxième défaite judiciaire pour Monsanto. La justice américaine a condamné le producteur du Roundup à verser plus de 80 millions de dollars à un retraité malade d'un cancer attribué aux désherbants à base de glyphosate. Si vous cherchez l'un des défis majeurs de notre société pour les prochaines décennies, il s'appelle dépendance. D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va tripler pour passer à près de 5 millions. Un rapport est remis aujourd'hui à la ministre de la Santé. L'une des solutions préconisées, favoriser le maintien à domicile des aînés. Olivier Samin.
Deux chiffres pour prendre la mesure du problème. Une fois qu'on vous a versé toutes les aides et toutes les réductions d'impôts possibles, le coût qui reste à votre charge chaque mois pour l'hébergement en EHPAD de votre maman très âgée, c'est en moyenne 1850 euros. Si elle a la possibilité de rester à la maison avec le même niveau de dépendance, mais avec des professionnels qui viennent chez elle, c'est seulement 60 euros, même si c'est vrai, vous ne comptez pas dans ce deuxième cas le temps que vous passez auprès de votre mère, les courses que vous lui faites, la surveillance que vous exercez. Il n'empêche, maintenir une personne âgée à son domicile, c'est le meilleur calcul, mais ça n'est pas toujours possible. La réforme, on le devine, passera nécessairement par un renforcement des aides au profit des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'aller en établissement et dont la pension de retraite est trop faible pour couvrir le coût de l'hébergement. Mais il faudra aussi et surtout améliorer le maintien à domicile. Tout ça coûtera de l'argent. Mais ce que révèle le rapport Libault, c'est que la France consacre proportionnellement moins d'argent que la plupart de ses voisins à la prise en charge de la dépendance. À peine plus d'un point de PIB. En Suède, par exemple, c'est 2,7. Il y a donc de la marge, mais c'est un choix politique.
Olivier Samin, du service économie d'Europe 1. Cela peut vous paraître beaucoup d'argent. François-Henri Pinault, le patron de Kering, la maison mère d'Yves Saint-Laurent, va toucher une rémunération de près de 22 millions d'euros pour 2018. Avec nous, le chef du service économie d'Europe 1, Emmanuel Duteil. Comment expliquer ce montant, Emmanuel ?
C'est assez simple. Le groupe Kering est en pleine forme et son patron touche le jackpot. Alors, il a bien sûr un salaire confortable qui lui arrive chaque mois. Il a aussi un variable qui a fortement progressé l'an dernier de près de 40% pour atteindre environ 2 millions d'euros. Mais la majeure partie de cette rémunération est due à des actions de performance acquises il y a quelques années. Entre-temps, le groupe a bénéficié à plein du redémarrage, notamment de Gucci. L'action s'est envolée. Le groupe a aussi fait mieux que le secteur du luxe. Du coup, le cours de ces actions de performance s'est envolé au point de représenter un magot de 18,5 millions d'euros. Alors, sentant la polémique montée chez Kering, on a prévu les arguments. On prévient déjà que François-Henri Pinault va payer là-dessus des impôts et des charges sociales, comme tout le monde. Mais surtout, il s'engage à réinvestir tout ce surplus dans les mois à venir en actions Kering. Mais en soi, si l'action poursuit sa progression dans les années à venir, ce pactole pourrait lui aussi continuer de progresser.
Merci Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. La Smart va quitter la Moselle. La petite voiture de place était jusqu'à présent assemblée à Hambach. Elle sera à partir de 2024 fabriquée en Chine. Mais le patron de Smart promet que cette décision n'aura aucune incidence sur les emplois du site français.
À suivre dans ce journal, on a découvert la face sombre du héros du jeu télé Les 12 coups de midi. Christian Quesada a été écroué pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pornographiques. À tout de suite.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Il était la star du jeu télé Les 12 coups de midi. Christian Quesada a été écroué pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques.
Oui, il s'agit du candidat le plus fort de l'histoire du jeu télévisé Les 12 coups de midi sur TF1. Portrait et histoire d'une déchéance, Jean-Jacques Herry.
Entre 2016 et 2017, les téléspectateurs de TF1 le connaissent aussi bien que Jean-Luc Reichmann, le présentateur des 12 coups de midi. Pendant 6 mois, Christian Quesada est incollable, il répond à toutes les questions, y gagnant au passage le surnom de professeur et surtout la rondelette somme de 800 000 euros. Derrière l'homme, il y a en plus une histoire qui fascine, celle d'un père célibataire qui vivote du RSA, qui abandonne l'école à 15 ans, SDF et cocaïnomane, bref, une vie de roman dont il tire d'ailleurs une autobiographie. Alors aujourd'hui, plus dure est la chute. C'est d'abord une jeune fille, mineure, qui porte plainte contre Christian Quesada. Il lui aurait fait des propositions sexuelles sur Internet. À son domicile, lors d'une perquisition, les enquêteurs retrouvent dans ses ordinateurs des milliers d'images et de vidéos pédopornographiques. Hier, Christian Quesada a donc été écroué. Le professeur dormira désormais en prison.
Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Des gilets jaunes ont demandé à pouvoir manifester sur les Champs-Élysées après-demain pour leur 20e samedi de mobilisation. Le secteur sera au contraire interdit à tout rassemblement, a annoncé Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur a justifié sa décision en parlant d'une provocation propice à de nouvelles violences. Et maintenant, direction le Tarn pour une belle histoire. Une petite fille de 9 ans, née sans l'avant-bras droit, vient de bénéficier du savoir-faire des ingénieurs d'Airbus. Ils lui ont offert une prothèse légère, colorée, de quoi lui faciliter la vie. Reportage Benjamin Péter.
Elle est grise, blanche et violette avec des paillettes et surtout lui a demandé qu'on puisse y lire son prénom entouré d'un fer à cheval. Depuis qu'elle a récupéré sa prothèse il y a quelques jours, tout est plus facile.
C'est déjà mieux pour attraper des choses, faire du vélo. J'ai juste à plier mon coude pour fermer les doigts de la prothèse et en dépliant mon coude, ça déplie les doigts.
C'est Denis Thur, salarié d'Airbus et bénévole pour l'association Enable qui a mis en place toute une équipe pour créer cet avant-bras à l'aide d'une imprimante 3D. L'idée c'était qu'elle soit plus pratique, plus légère que toutes les prothèses qu'elle avait eues jusque-là.
Pour le bras complet, on est à peu près à 180 grammes. Une prothèse médicale, elles sont aux environs de 500 grammes. Et quand elle a vu le bras et qu'elle a vu toutes ces couleurs, elle a dit « Ah, c'est génial, c'est exactement ce que j'avais demandé ». Tous les bénévoles qui étaient là aussi, ils étaient ravis. Quelque chose de très très fort à ce moment-là.
Lou a désormais un bras personnalisé qui lui plaît. Virginie, sa maman, a vu le regard des autres changer.
D'être fière de la montrer, c'est une grande avancée. D'ailleurs, à l'école, c'était pas ta fausse main. C'est « Oh, c'est chouette, c'est sa prothèse, même sa petite sœur n'a pas le droit d'y toucher ». C'est plus pareil.
L'autre avantage, c'est le coût, à peine une cinquantaine d'euros. Et l'association Enable espère maintenant être contactée par d'autres familles pour imprimer d'autres prothèses personnalisées. Lavore, Benjamin Péter, Europe 1.
Ah, je vous avais promis une belle histoire, je ne vous ai pas menti.
Vous ne me mentez jamais.
Et c'est l'excellence française.
C'est vrai aussi.
Qui se met au service de la bonne cause, ça fait plaisir.
On peut le saluer. C'était le journal de David Doucan, un journaliste qui ne compte pas ses heures de travail, mais qui n'oublie pas pour autant de vivre sa vie d'homme. Une vie qui semble devoir passer par une certaine Céline Dacosta, dont il rêve de moins en moins secrètement. J'imagine donc, David, que vous allez adorer que je vous dise qu'on passe à la météo.
Attends, je drague Céline Dacosta, tu peux me donner 5 minutes? Tu peux rajouter une pub là, s'il te plaît? Je suis en train de conclure.
Ayez au moins la patience d'attendre la coupure pub, effectivement.
Mais pour l'heure, puis-je passer un message d'amour à mon épouse
qui
nous écoute, que j'embrasse aussi,
qui nous écoute chaque matin?
Pas comme vous, mais
c'est marrant.
Non, oui.
C'est marrant, Mathieu.
Ne troublons pas Céline, passons à la météo.
Non, je suis pas troublée du tout. Et c'est marrant, j'allais dire que mon mari avait écouté hier, il m'a demandé si j'aimais vraiment votre pull.
Mais alors, vous l'aimiez vraiment?
Oui, je lui ai dit, il était très joli, t'aurais plus, t'aurais cette espèce de bleu profond.
Alors, rappelons à nos auditeurs la fonction de votre présence dans cette émission, la météo.
Du soleil encore pour presque tout le monde aujourd'hui.
Donc,
non, mais c'en est une importante quand même. Les gens ont le droit de savoir le temps qu'il va faire. Alors, soleil pour les trois quarts du pays dès ce matin. Nuages en revanche, et comme hier, de la Bretagne aux Ardennes. Nuages qui gagneront toutes les régions nord de la Loire cet après-midi. Et soleil encore pour tous les autres, avec encore un petit peu de vent de nord bien frais. Du coup, les températures semblables à celles d'hier, de 13 à 20 degrés du nord au sud, vont semblent un petit peu fraîches. Donc, on garde sa petite laine aujourd'hui. Et on profite du soleil là où il y en a.
La femme de David Doucan vient de lui envoyer des cœurs suivis d'un doigt d'honneur. Voilà. Merci.
Alors, c'est même, hein, c'est
et moi, je l'embrasse. Ouais. Voilà.
Bon. Je sais pas si vous m'aidez là.
5h, 7h. Votre femme. Pas vous.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent chaque matin, vous le savez, leur vision très personnelle et sans langue de bois de l'actu du jour. Au programme ce matin, cet enjeu énorme pour Emmanuel Macron, un peu masqué par l'actualité du remaniement, le scrutin des municipales.
Bon réveil à tous, il est 6h41. Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Theresa May promet de démissionner si les députés britanniques finissent par adopter son accord de Brexit. La Première ministre joue ainsi sa dernière carte, alors que les parlementaires ont répondu non hier aux 8 solutions qu'ils avaient eux-mêmes soumises au vote. Deuxième défaite judiciaire pour Monsanto, la justice américaine a condamné le producteur de Roundup à verser plus de 80 millions de dollars à un retraité malade du cancer attribué aux désherbants à base de glyphosate. Enfin, des gilets jaunes ont demandé à pouvoir manifester sur les Champs-Élysées après-demain pour leur 20e samedi de mobilisation. Le secteur sera au contraire interdit à tout rassemblement, a annoncé Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur a justifié sa décision en parlant d'une provocation propice à de nouvelles violences.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Ils sont au complet, prêts à en découdre avec l'actu. C'est une séquence que j'aime à ouvrir, comment dire?
Avec une sorte de perversité suave.
Voilà les trois fantastiques. Et Baroque pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Axel qui, c'est vraiment dommage, avait regagné un certain crédit vis-à-vis de la profession hier en signant une remarquable chronique sur la hausse des émissions de CO2. Mais voilà, son goût pour l'économie est en fond moins prononcé que son goût pour le music hall. Le Dauphin d'Or a récidivé. Non pas avec une vanne à proprement parler, pire, avec une imitation. Qui devrait nous valoir une sous-huitaine, une convocation à l'ambassade de Chine. Tout est parti d'un de mes lancements pourtant extrêmement sérieux puisque j'évoquais la visite du président chinois en France. Les coulisses de la visite du président chinois en France avec des échanges plus tendus que ne laissent imaginer les images officielles.
Je fais Xi Jinping qui est pas content.
Essayons de vite détourner l'attention des autorités chinoises de cette imitation. Mickaël Darmon, vous nous parlez politique.
J'ai Mickaël.
Politique. Les événements se sont accélérés au gouvernement depuis hier, Mickaël, avec le départ du gouvernement du porte-parole Benjamin Griveaux qui a décidé de se consacrer au municipal à Paris. Pourquoi maintenant, alors que l'annonce d'un remaniement est prévue vendredi?
Oui, alors a priori, c'est vrai, on aurait pu s'attendre à ce que le porte-parole quitte tout simplement le gouvernement au moment où est annoncée une nouvelle composition de l'équipe gouvernementale avec sa ou son remplaçant. Mais vous savez, les coulisses de cette équipe sont en effervescence depuis le début de la semaine, hein, déjà avec l'investiture de Nathalie Loiseau qui annonce qu'elle quittera donc le gouvernement et son poste de ministre des Affaires européennes. Et puis il y avait aussi le cas, on vous en parlait donc effectivement dès le début de la semaine, de Benjamin Griveaux qui de longue date avait cadré avec le président de la République et Édouard Philippe, le moment de son départ, il annoncerait sa candidature à la mairie de Paris et quitterait le gouvernement, restait à trouver le bon moment. Pour lui, c'était le bon moment. Édouard Philippe aurait préféré d'ailleurs qu'il parte plus tard, mais Benjamin Griveaux, depuis déjà plusieurs semaines, ne cachait pas son envie de retrouver sa liberté de parole. L'Élysée, hier soir, a voulu remettre de l'ordre dans tout ça, également de l'ordre dans le cas Mounir Majoubi, voilà. Rival déclaré de Griveaux, candidat déclaré lui aussi pour Paris. Il avait chargé fortement son collègue, on s'en souvient, en disant que ceux qui veulent partir sont des déserteurs, ceux qui veulent partir du gouvernement sont des déserteurs, eh bien l'Élysée lui a demandé tout simplement de se mettre en cohérence. Candidat à Paris, il quitte le gouvernement. Alors on va dire aussi les choses comme elles sont. Cette sortie, elle prend aussi des allures de sanctions, parce que ces dialogues avec les leaders un peu baroques des Gilets jaunes, mais surtout sa faible capacité à porter le sujet important du numérique, concentre depuis des mois les critiques en interne au gouvernement. Et donc c'est aussi la vraie raison du départ de Mounir Majoubi.
Des candidats pour la campagne municipale se préparent pour la course à l'investiture en juin. C'est un peu brouillon ça, en plein lancement de la campagne européenne.
Alors Emmanuel Macron, figurez-vous, a justement souhaité le contraire. Il voulait montrer que Griveaux et Loiseau partent avec la bénédiction du chef pour leur projet politique, ce qui d'ailleurs peut faire grincer des dents de la part des autres candidats marcheurs pour Paris et qui briguent l'investiture. Ça fait d'ailleurs déjà bouger un peu les lignes. Dès hier soir, par exemple, le sénateur de Paris, Julien Bargeton, a annoncé son retrait de la course et s'est rallié à Benjamin Griveaux. L'ancien porte-parole, lui, va certainement officialiser sa candidature dès demain. Et ensuite, il se consacrera à soutenir la campagne donc, des européennes et de la liste Renaissance emmenée par Nathalie Loiseau. Une liste où, en même temps, fonctionne plutôt bien à ce stade. Pour les candidats à Paris, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est plutôt la liste Méfiance.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. On passe à l'économie avec vous, Axel. Carrefour prépare près de 1500 suppressions de postes. Les hypermarchés sont particulièrement ciblés.
Ben oui, les hypermarchés, c'est le concept du tout sous le même toit. C'est un concept qui est malade à cause d'Internet et des chaînes spécialisées. Parce que par exemple, si vous voulez acheter des vêtements, ben aujourd'hui vous allez chez H&M, chez Zara. Si vous voulez acheter des articles de sport, vous allez chez Decathlon, chez GoSport. Si vous voulez acheter de l'électroménager, vous allez chez, ouais, je cite, hein, chez Boulanger, chez
tous
Darty.
Tous vos partenaires.
Voilà, exactement. Donc vous voyez, c'est difficile dans un hypermarché de vendre de tout. Et en plus, c'est difficile de faire faire de la marge, parce que maintenant le consommateur, avant d'acheter une machine à laver, que fait-il? Il compare les prix sur son smartphone devant le vendeur. Donc vous voyez, on ne peut plus vendre de tout, on ne peut plus faire de la marge. Bah, du coup, Carrefour en tire les conséquences et va supprimer donc, beaucoup de postes dans les rayons électroménagers, photos, cinéma, son, bijouterie.
Mais vous nous annoncez, Axel, tout simplement la mort du concept de l'hypermarché tout sous le même toit.
Alors, Alexandre Bompard a une formule, il dit ça n'est, alors, voilà, ça n'est pas la fin de tout sous le même toit, mais il dit mais ça n'est pas le même tout et ça n'est pas le même toit. Alors, c'est typiquement une formule de grand patron.
Je reconnais bien la finesse d'Alexandre.
Voilà, alors en fait le toit sera plus petit, bah oui, on voit bien qu'on va privilégier les supermarchés recentrés sur l'alimentaire. Pourquoi? Parce que on n'en est pas encore au stade d'acheter des fraises ou des cerises sur internet, voyez. Et donc là pour le coup les hypermarchés, pour peu qu'ils aient une offre attractive, et ça ça va être tout le travail d'Alexandre Bompard, c'est-à-dire une offre locale et bio, eh bien là les supermarchés peuvent regagner des clients, donc ça va être tout le pari du bio abordable. Et puis alors, pour son concept quand même de vente de tout, eh bien là, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, dit bah, « Puisque vous êtes si malin, là, les chaînes spécialisées, les Darty pour vendre des micros, eh bien venez carrément chez nous. » Et donc il va faire à l'intérieur
des corners,
exactement comme au Galeries Lafayette, il va faire des corps, eh bien ça commence, d'ailleurs il y a déjà des tests à Limoges et dans l'Essonne, à l'intérieur du Carrefour, vous avez un corner Darty si vous voulez acheter un aspirateur ou un micro-ondes, voilà. Donc, mais en tous les cas, Carrefour qui a importé en France le concept de l'hypermarché, c'était en 1963 à Sainte-Geneviève-les-Bois, doit effectivement aujourd'hui réinventer ce concept pour qu'il ait un futur.
Merci Axel de Tarlé. Elle se réinvente tous les matins
tous
au
les
micro
matins.
D'Europe 1. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Alors vous savez, aux États-Unis, le numéro d'urgence, c'est le 911. Quand vous avez un problème, vous pouvez appeler le 911, exactement. 911, comme dit si bien Axel de Tarlé. Eh bien, figurez-vous, c'est le titre de cette nouvelle série que je vous propose de regarder sur M6 ce soir à 21h. Ça se déroule à Los Angeles et à l'autre bout du fil, il y a Abby, une des opératrices du service de secours. Alors parfois, les appels pourraient faire sourire.
911, quelle est votre urgence?
Ouais, je vous appelle parce que je suis au drive-in là et la connasse de serveuse m'a donné 6 nuggets alors que j'étais censée en avoir 9.
Madame, c'est interdit de contacter un numéro d'urgence quand c'est pas justifié. Mangez vos nuggets, trouvez un sens à votre vie et libérez la ligne.
Et puis parfois, malheureusement, l'humour n'est pas de mise.
911, quelle est votre urgence?
Bonjour, j'habite dans un appartement au 876 McCain. Je suis dans ma salle de bain et je crois que j'entends un bébé qui pleure dans le mur.
Il y a un bébé sur un mur?
Non, pas sur un mur, dans le mur. Il y a un bébé à l'intérieur du mur. Je pense qu'on l'a jeté dans les toilettes et qu'on a tiré la chasse d'eau.
Un bébé coincé dans une canalisation pour une histoire vraie, car la plupart des cas évoqués dans cette série sont des faits divers réels. 911, en fait, vous le verrez, c'est le quotidien des pompiers et de la police à Los Angeles, avec trois personnages principaux dont on suit également, évidemment, les aventures personnelles. Il y a Abby, donc l'opératrice du 911, capable de gérer les situations les plus dangereuses à distance. Athéna, une flic dont la famille est en pleine décomposition. Et puis Bobby, le chef des secouristes. C'est le producteur Ryan Murphy qui est derrière cette série. On lui doit notamment des succès, des séries à succès comme Nip Tuck, Glee ou encore American Horror Story, et il a créé cette fiction 911 alors que des secouristes ont sauvé la vie de son fils qui était à peine âgé de 11 mois. Et bien verdict, moi je m'attendais au pire du pire, et bien finalement c'est un divertissement qui est flanqué d'une bonne dose d'humour pour une série qui est à picorer avec plaisir. C'est classique mais ultra efficace dans la série de genre pompiers et autres services d'urgence. Je vous la conseille.
Mais rassurez-nous, le bébé a été sauvé quand même dans cette histoire.
Je vous dis rien, je fais pas de spoiler, hein. Après je vais me faire engueuler par les auditeurs.
Si. Merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h15.
5h07, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt fini. Nico Saliagas fait les 100 pas dans sa loge entre les photos dédicacées de Maria Carré et les bouteilles de champagne. Le débrief arrive. Débrief d'une matinale où Nico s'est encore montré son goût pour l'économie. C'est bien simple, il adore la chronique d'Axel de Tarlé, même s'il lui arrive parfois de décrocher un peu et d'être ensuite surpris au moment de sa relance.
C'est une grande consultation citoyenne qui est à l'origine de ce vote du Parlement européen hier, hein, la fin du changement d'heure pour 2021.
Donc, oui d'accord, mais qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas.
Presque aussi passionnant qu'une chronique écho du Dauphin d'Or, le débrief de la matinale de Nico Saliagas à suivre.
Bon réveil à tous, il est 6h52. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à vous dire adieu et vos sanglots longs n'y pourront rien changer. Des sanglots inutiles car vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Saliagas. Et en jetant un œil au programme, massage coquin Hélène Zélani, révélation pileuse avec Céline Dacosta et violente polémique sur les moules avec Laurent Cabrol, on se dit qu'on tient peut-être un grand millésime. Commençons comme il se doit par le chef d'orchestre de cette matinale. Or, Quelle est, Céline, vous qui le connaissez bien maintenant, la principale qualité de Nikos?
Il est épilé, total.
Non, ça, professionnellement, je veux dire. Ouais. Et professionnellement, sa principale qualité, c'est la diction. Aussi parfaite à l'antenne qu'en antenne.
L'actualité internationale. Allez voir le fauteuil de Molière, celui dans lequel il jouait le malade, j'imaginais. Merci, ça sera la réponse.
Je suis allé dans un iPad.
Un iPad.
Et oui, Nico, c'est parti à la rencontre des seniors dans les iPads. Comme quoi, quand on dit qu'on les parque, les personnes âgées, dans des espaces exigus, on en a ici la preuve criante. Heureusement, entre deux visites d'iPad, Nico s'est aussi parlé aux jeunes et embrassé les dernières innovations, notamment médicales. En effet, chers auditeurs, soyons modernes. En 2019, contre les rhumes, les angines, les bronchites, une seule solution.
Des ventouses, il n'y a rien que ça. Des ventouses, ça marche. Mais vraiment.
Bah oui, ça marche. Et au grand-père, il faisait que ça. Il faisait que ce ventousé.
On l'entendait corroborer ici les propos de Nico sur les ventouses. Hier, Laurent Cabrol a également, une fois de plus, eu le courage de ses opinions en lançant un débat certes polémique, mais je crois indispensable.
La revue de presse avec David Abiker. Quels sont les mots-clés ce matin de ce que vous avez lu?
Allez, ce sera football, écologie et moules.
Il paraît que c'est la nourriture préférée des Français, les moules. Les moules, les Français adorent les moules.
Je pensais que c'était les huîtres.
Non, ce sont les moules.
Lolo a visiblement l'air sûr de son fait, ne le contestons pas. Enfin, ceci est un message du ministère de la Santé. Le petit déjeuner est un moment sacré. C'est selon les nutritionnistes le repas le plus important de la journée. Les médecins sont très clairs, il ne faut le rater sous aucun prétexte, même si ça tombe durant la revue de presse de David Abiker et que vous êtes à l'antenne avec lui et que vous devez le relancer. C'est pas grave, relancez-le avec un morceau de banane dans la bouche, ça ne s'entendra quasiment pas.
C'est l'épuisement physique et l'épuisement des idées contre lesquels il existe un remède.
La course à pied qui fait la une de West France.
Bravo, Nikos.
Je me suis fait cueillir.
Merci beaucoup.
Mathieu le fait aussi, Nicolas, il
vous rassure. Oui. En fait, il ne faut pas trop manger au petit matin. Pas trop, parce qu'à la fin de la saison, on part avec 10 kilos.
Ah, bah, oui, c'est ça. Le problème.
Donc, il faut manger des fruits.
Des bananes.
Voilà, des choses comme ça. Comme Thomas Soto. Bonjour à tous, bonjour les amis.
Bonjour Nicolas.
Merci Mathieu, merci Eva Rock.
Bonne
à demain.
Journée, Nicolas.
Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.